Bonjour
tout le monde.
C'est un plaisir de vous voir à nouveau. C'est chaque fois qu'il y a samedi vendeur, dimanche, c'est moi qui est là. Hein? C'est, je pense que l'année dernière c'était déjà comme ça. Je me trompe pas. Voilà, je voulais vous parler d'un chapitre vraiment difficile. J'ai préparé presque jusqu'à la fin. C'est la parabole des 10 vierges, ou 10 jeunes filles, où Jésus parle en Matthieu 26. Mais finalement, j'ai dû abandonner. C'était trop pour moi. Je n'arrivais pas à trouver la solution à la fin. Je sais que beaucoup disent que c'est la parabole ou le passage de la Bible le plus compliqué. Alors, je n'ai pas réussi. Alors, je prends autre chose. Désolé, hein. Alors, si vous savez, peut-être il y a 2 semaines à Villers, vous l'avez entendu. S'il n'y a personne, c'est super. Alors, c'est comme, un peu comme ma femme, elle est championne du monde en spaghetti bolognaise. Waouh, ça, je vous dis. Hein. Mais, comme vous savez, les spaghettis, le lendemain, réchauffés dans la poêle, c'est encore beaucoup mieux. Hein? Alors, c'est ça, ce matin. C'est pas réchauffé, hein? Autrement, ça. Mais c'est encore meilleur. Voilà. Ah, c'est une phrase de David qui est à l'origine de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. C'est un cri de cœur, le cri d'un homme déchiré. Déchiré dans ses sentiments, déchiré dans l'adversité, en Dieu, le bien faire, abandonné. Et cette phrase d'impuissance, il a écrit, tu peux mettre le... Voilà. Il dit dans Psaume 27, en fuite devant tout plein d'ennemis et tout ça, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Et si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Ce cri m'a touché. Si je n'étais pas sûr. Et je pense à ma foi, à ma relation avec Dieu, à sa bonté, au pardon, au base de ma foi. Qu'est-ce qui me donne la certitude que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce qui me donne la force de continuer pour que je puisse être sûr? Alors, je me suis dit, il faut que je retourne vers les fondamentaux. Et ça, j'ai fait. Qu'est-ce qui est vraiment important? Je me suis demandé. Dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement submergé par des infos, des nouvelles, vraies ou faux, importantes et futiles. Où se trouve aujourd'hui ce qui est important? Et je l'ai trouvé en 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est un long chapitre, hein? Alors je ne vais pas lire tous les chapitres, je vais prendre quelques passages de ce chapitre. Je vais l'afficher comme ça, vous l'avez devant vous. Et je vais commencer par quelque chose qu'on a la tendance, malheureusement, d'oublier. Et j'ai presque l'impression que tout le monde l'oublie. Ça peut être les catholiques, les protestants, les réformés, les évangéliques, tout le temps l'oublient. Et c'est l'importance de la simplicité. En ce moment, il y a la Coupe du Monde de foot féminin, hein, ça vous suivez certainement un petit peu. Alors, vous savez pourquoi le foot est le sport le plus populaire qui existe? Vous avez déjà le titre, alors ce n'est pas très compliqué. Hein, parce que c'est une simplicité sonore. Hein. Il y a 2 équipes. Hein. Il faut une balle et 4 t-shirts. Quand on était jeune, on a toujours joué les sans t-shirts contre les ceux avec t-shirt. Alors, avec les t-shirts, on a fait le but. À l'époque, Les filles ne jouaient pas trop au foot, hein, alors c'est... Alors je dirais, tout le monde ici peut jouer au foot. Il n'y a pas de souci, hein. Il faut seulement marquer plus de buts que les autres, et c'est tout. Christina, ma femme, elle est assistante maternelle. Alors, elle garde des tout petits. Et Lila, elle a 1 an et demi. Et si je donne une balle, elle marche un peu comme ça, comme toutes les bébés. Si je donne une balle à Lila, elle shoot dedans. C'est automatique. J'ai dit foot, et tac, elle shoot dedans. C'est facile. Si je voulais apprendre à Lila la lutte gréco-romaine, là, peut-être, j'aurais un peu de mal. Paul était un grand intellectuel. Il a écrit des choses difficiles à comprendre. Hein, Pierre témoigne dans sa deuxième lettre. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre. Mais son évangile était simple. Pas simpliste, hein? Mais simple. Vous savez, ce n'est pas étonnant que des gens autour de nous, qui sont des gens assez simples, et ce n'est pas péjoratif, hein, je dis ça comme ça, hein, si je pense à Pompée, des gens assez simples, ne comprennent rien de l'Église, de l'Évangile, de la foi. C'est pas ici, hein, c'est chez nous. On est un petit groupe, hein, à Pompée. Alors, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dedans, et il y a un gentil frère, vraiment, qui a le Seigneur à cœur, et qu'est-ce que c'est la première question qu'il pose? Est-ce que vous êtes baptisé? Bam! Quelle question! Je vous ai transmis, hein, je vais lire, comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Son enseignement de première importance, qu'il mentionne, ce n'est rien d'autre que l'Évangile. Et cet évangile est d'une simplicité déconcertante. Trois phrases. Vous avez vu, hein? Trois fois phrases. Christ est mort pour nous. Il a mis en tombeau. Il était vraiment mort, hein? Et il est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est le béaba. On dit ça, hein? Béaba, c'est un mot, hein? De l'évangile. Pas seulement de l'évangile que je partage, mais c'est aussi l'évangile que je vis. Combien de fois on fait tellement compliqué notre évangile. On attend tellement des choses des autres. Et l'évangile est tellement simple. C'est ça, la base. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un verre d'eau ou quelque chose comme ça? Parce que là, encore jamais arrivé, mais là... L'importance de la simplicité. Le deuxième qu'il dit dans les versets 17 et 19, l'importance de la résurrection. Hein, il parle de l'évangile simple. Or, et là, il parle de la résurrection. Or, Christ, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Si c'est seulement pour la vie présente que vous avez mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Un Jésus sans résurrection est bon à rien. Je ne sais pas si quelqu'un devrait, hein. Vous connaissez encore le musical Jesus Christ Superstar? Ça veut dire encore quelque chose? Merci. Année 70, hein?
Jesus Christ, superstar. Voilà, exactement. Voilà.
J'aime la musique hein, de ce musical. Et de temps en temps, nous regardons encore à la maison de la version de 2013 en Angleterre. Wow. J'aime trop, hein. La musique, les costumes, la mise en scène, les acteurs. Mais une chose cache tout. C'est pas... Vous savez, c'était les années 70, hein. Alors les disciples, à l'époque, ils fumaient les joints pendant qu'ils sentaient le truc, hein. C'était vraiment la belle époque, hein. C'est... Non. Vous comprenez ce que je veux dire. Notre jeunesse, c'est tout, hein. C'est... Mais une chose cache tout. Et c'est comme un point dans le visage. La pièce se termine avec la mort de Jésus. Et chaque fois, je me dis, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, sert finalement à rien du tout. Parce que sans résurrection, il n'y a pas d'espoir. Parce qu'ils chantent cet espoir qu'ils ont en Jésus-Christ. Mais s'il est seulement mort, il n'y a pas d'espoir. Sans espoir, pas de vie. Et dans cette optique, tu commences à comprendre les gens qui veulent se tuer. Qui sont des gens, des hikikomori au Japon, hein, qui pendant 20 ans se terrent dans leur appartement où on ne sort plus. Tu comprends les gilets jaunes, les alcooliques, pardon, les drogués et tout. S'il n'y a que la vie présente, quelle galère. S'il n'y a que la vie présente, comment veut-on en sortir s'il n'a plus de sous, si la santé se dégrade, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons oublié de penser dans la dimension de l'éternité. Mais la résurrection, ça nous donne une autre dimension. C'est Stargate, hein? Porte des étoiles. Partir vers des autres mondes. Et cette vie éternelle a déjà commencé. Mon troisième point, c'est l'importance de ces écrits. Pour la Bible et l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui fait la différence. Hein, une vie après la mort, tu trouves aussi chez l'islam, tu trouves chez les bouddhistes, certaines vies qui durent tout le temps, ça, il n'y a rien qui est différent. Mais ce qui fait que le christianisme est unique, c'est cette personne, Jésus-Christ. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, du même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. La différence est le sacrifice de sa personne, sa mort totale à la croix, par amour pour nous et pour le pardon de nos péchés. Mais ces morts, comme je vous ai dit, ou Paul dit, ne servaient à strictement rien si Jésus ne serait pas devenu Jésus-Christ par sa résurrection le troisième jour. Parce que Jésus, ça existe. Hein? Hier soir, il y avait un match de foot et un qui a marqué un but, il s'appelait Jésus. Ah, cette équipe ne peut pas perdre hein, si Jésus... Donc, voyez, n'importe quoi. Hein? Ça existe tout plein. Hein? Il a dû devenir Jésus-Christ. La Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde par le péché. Elle n'était pas prévue, hein? Quand Dieu a fait son plan pour la planète, pour la terre, pour l'humanité, la mort n'était pas prévue. Jésus a dû régler deux problèmes, hein? Le problème du péché, ce qu'il a fait par sa mort, et le problème de la mort, ce qu'il a réglé par sa résurrection. Mais là, je vais encore parler un peu. Alors, je vous ai parlé de l'importance de la simplicité de notre message, de notre évangile. L'importance de la résurrection, l'importance de Jésus-Christ. Maintenant, l'importance de la transformation. Parce qu'il faut quelque chose en moi qui se passe. Hein. On a le texte? Voilà. Même si la science aujourd'hui veut nous faire croire en une probable future jeunesse éternelle, hein, ça devrait être pour dans 20 ans, hein, on a dit, peut-être, on va trouver qu'on reste jeune tout le temps. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. J'ai passé mes 60 ans et je sais que, ce que veut dire d'être fragile, santé et corps, malheureusement. La résurrection nous donne aussi un autre regard sur cette enveloppe que nous portons. Écoutons ce que Paul nous dit. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Voici, je vais vous relever un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immoralité. La perfection et l'immortalité est à venir. Nous pouvons être le champion du monde des chrétiens, le superman de connaissances bibliques. Un homme comme David. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de David? C'est un homme selon mon cœur, exactement. Même lui, vous avez certainement lu le passage quand il est très âgé. Hein? Il est dans son lit, faible et tout, avec tout plein de couvertures sur lui parce qu'il a tout le temps froid. Même un homme comme lui, hein? Lui, il a encore des jeunes filles à côté, hein? Ça, c'est une autre époque. Hein? La fragilité va nous attraper. Notre chance s'appelle espoir. Plus de larmes, plus de souffrances. Un monde avec une égalité parfaite sans le résultat direct de la résurrection de Jésus-Christ. Ça donne une autre dimension à notre existence. Vous voyez la dimension sociale fabuleuse de l'Évangile. Il n'y a plus de riches, plus de pauvres, plus de noirs, plus de blancs, plus de je ne sais pas quoi. Hein. Tout le monde uni en Jésus-Christ. Hein. Intelligent ou pas intelligent, on s'en fout. Hein. Tout le monde accueilli par ce Jésus-Christ. L'importance, je continue, l'importance de la victoire. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a résolu deux grands problèmes. Le péché et la mort. Jésus a résolu le deuxième grand problème de l'humanité. Il a battu la mort. Jésus a finalement vaincu le dernier ennemi, le plus redoutable de tous les ennemis. La victoire totale sur la mort a été remporté. Ô mort, qu'est devenue la victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Essayez d'imaginer, c'est peut-être pas possible, hein,
la joie dans le QG du diable quand ils ont réussi à tuer Jésus. Hein, après Vendredi Saint. Waouh! On a réussi. Hein. Voilà, le Fils de Dieu, terrassé, tué, débarrassé. Hein? Mais c'était une joie de courte durée. Même pas 3 jours avant qu'ils ont dû constater qu'ils sont tombés dans un piège diabolique de Dieu. Jamais il a vu venir ce piège-là. Par la résurrection. Tous ces efforts qu'il a fait, tous ces efforts pour terrasser Jésus, ouf, envolé, fini. La mort était vaincue. Une victoire totale, nous dit Paul. Oui, et je suis d'accord avec vous, la mort est encore là. Et la mort est encore très douloureuse. Elle frappe encore et ses frappes sont redoutables. Mais ce n'est plus la même chose. Ou, quelqu'un regarde peut-être de temps en temps Fort Boyard. Hein, vous connaissez Fort Boyard. Alors, il y a tout plein de trucs, hein, des épreuves. Et une des épreuves, c'est souvent passer là où il y a des tarentules, on dit, des migales et des scorpions. Hein? Et vous savez quoi? Ces migales et ces scorpions, ils ne sont pas dangereux. Parce qu'ils ne peuvent pas les laisser dangereux. Hein? Ils ont coupé leur truc, je ne sais pas comment ils ont fait, qui ne tuent plus personne. Mais est-ce que ça aide de savoir ça? Ça aide aux candidats de ne pas avoir peur? Mais non. Ils n'osent quand même pas toucher. Hein? Oh, beaucoup, hein? Et ils sont comme un... Et bien, c'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça. La peur est encore là. La bestiole est encore là. Mais le dard, ce qui fait que c'est dangereux, envolé. Envolé. L'importance de la victoire. Comme ces scorpions ou migales, la mort a perdu son poison, son dard. La vie a gagné la bataille, et c'est à la vie, et c'est cette vie-là que Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant, nous propose. Et c'est encore un point, c'est l'importance de la persévérance. C'est tout à la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Parce que la puissance de la résurrection devrait être pour nous un puissant encouragement de persévérer dans notre vie avec le Seigneur, dans notre engagement. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous avez donnée au service du Seigneur n'est pas inutile. L'importance de la persévérance. Et avec cette phrase, Paul termine ses explications sur la résurrection. Que cette victoire sur le péché et la mort nous encourage de ne pas nous décourager dans l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. C'est certes que notre Église, je parle maintenant de Pompée, hein, c'est certes que nos Églises sont petites. C'est certain que nous sommes souvent à notre limite. C'est certain que nous pourrions faire plus avec plus de monde. Mais sachez que ce que vous faites peut être trop peu, peut être trop maladroitement. N'est pas inutile. N'est pas inutile. Vous savez, quand vous remarquez que vous preniez doucement l'âge, vous commencez à regarder le concert classique sur Arte à la fin du dimanche après-midi. Ce qui m'arrive, hein. Moi, ça me fascine. Ça me fascine des grands orchestres comme ça, hein, où chacun a son rôle à jouer et tout ça. Hein. Ça, c'est comment ils ont pu inventer une chose comme ça, hein, les compositeurs, que chacun a sa musique et tout ça. Ça dure longtemps, hein, une symphonie comme ça, souvent. Hein. Et parfois, tu trouves qu'il y a un musicien dans le grand orchestre, hein, qui est là, tout derrière, quelque part, et il a quelque chose comme ça dans la main, et il attend. Et il attend pendant 2 heures presque. Et à un moment donné de ce concert, oh, il fait comme ça. Et c'est tout. Et moi, en tant que laïc, ou je ne sais pas comment dire, je dirais, voilà, est-ce que c'est tellement important? Est-ce que cette note-là est tellement importante? Et tu dis, pour 99,9% des personnes, ce n'est pas important. Mais pas pour le chef d'orchestre. Et pas pour celui qui a construit ou qui a composé tout ça. Parce que pour lui, si il n'a pas ça, ce n'est pas fini. Tout ce bruit autour, et parfois ça déménage, hein, tout ce bruit autour n'est pas fini sans ça. Sans ce ping, l'œuvre n'est pas parfaite. Et alors sachez, sans vous, sans votre intervention dans le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas parfaite. Peut-être parfois il faut attendre longtemps dans la vie. Et vous pensez, pourquoi je suis là? Pourquoi, avec ma petitesse, que je ne sais pas parler devant, et vous demandez, pourquoi? Il y a un moment dans la vie où il n'y a personne d'autre sur tout l'univers, avec tous les 7 milliards du monde, personne d'autre peut faire votre pigne. Personne. C'est ça. Votre engagement n'est pas inutile. Peut-être vous avez peur de rater quelque chose parce que vous n'avez pas de place avec tout ce... Parfois, vous avez les grandes caisses là, boum, boum, boum. Vous n'avez pas de place dans l'église à côté de la grande caisse. Parce que vous êtes ici avec ce machin-là et personne ne voit, vous voit. Et Paul dit, et le Seigneur nous dit, non. Non, votre pigne est utile et importante. Que la puissance de la résurrection balaye nos doutes, nos incertitudes, notre découragement. Que la puissance de la résurrection nous remplit de courage, de force et de persévérance. Que la puissance de la résurrection terrasse le faux semblant, la suffisance et la paresse dans la vie. Que la puissance de la résurrection laisse pousser dans nos vies envie et disponibilité au service du Seigneur. Mon vœu est de voir naître, je parle à nouveau de Pompée, je pourrais parler d'ici, hein, une église de simplicité. Une église qui est basée sur un évangile qui se partage, où le but n'est pas son propre épanouissement, mais un service pour le Seigneur qui n'est pas inutile. Je rêve d'une église qui transpire l'espoir, où la puissance de la résurrection n'est pas un simple mot. Je voudrais une église qui vit la résurrection chaque jour. Une église qui vit l'évangile de la vie, l'évangile de l'espoir. Je rêve d'une église qui vit le pardon, parce que sans pardon, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de guérison de nos âmes. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Et pour ça, paf, soli Deo Gloria. Que Dieu seul soit loué dans notre vie, dans notre Église. Amen. Je prie encore. Oui, Seigneur, exactement ça, à toi la gloire seule. Ce n'est pas les mots qui comptent, c'est ce que toi tu fais en nous. Et si les quelques mots ont pu aider à nous approcher de toi, je suis trop content, Seigneur. Si ta parole, par l'aide de ton Saint-Esprit, a pu aider que nous avons peut-être un petit peu nous approcher de toi, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté et que tout ce qui est important dans notre vie, c'est toi. Aide-nous que c'est de la réalité dans notre vie, pas seulement chantée, mais vécue, Seigneur. Merci pour ce que nous avons entendu. Garde ce qui était bien, enlève ce qui était pas bien, pour que nous soyons encouragés pour cette semaine, tout simplement. Que nous pouvons vivre pour toi en te glorifiant, s'il te plaît, Seigneur. Béni sois-tu. Amen.
C'est un plaisir de vous voir et un bon dimanche à vous tous.